Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour Histoire de Savoir, un magazine de Radio Campus, la radio de la communauté de l'Université libre de Bruxelles. Au micro et à la technique, Adeline Wickmans. Aujourd'hui, eh bien pour la seconde fois, nous allons retrouver Tabata Fabri. Elle est une diplômée d'histoire de l'ULB, elle fait actuellement son doctorat à Paris. Et il y a de cela quelques semaines, elle avait assuré une conférence au Centre d'Histoire et de Sociologie des Gauches. Alors le sujet de recherche de Tabata Fabri, eh bien c'est l'espéranto. L'espéranto, une langue créée en Europe à la fin du 19e siècle, et qui est une langue donc créée de toutes pièces, qui a du coup pour effet de rendre tout le monde égal face à la langue, puisque toute personne qui décide de la parler doit l'apprendre auparavant. Alors certains ont évidemment des avantages, il est plus facile pour quelqu'un parlant une langue romane ou germanique d'apprendre l'espéranto que pour quelqu'un qui parle chinois, par exemple, mais n'empêche que tout le monde est mis face à la même difficulté ou facilité, parce qu'apparemment c'est une langue très facile à apprendre, si on peut lui faire confiance, à Tabata Fabri, donc qui nous a assuré lors de la première partie de l'interview que ça allait super vite. Et voilà, c'est donc une langue qui, au fil du temps, en tout cas avant que l'anglais ne s'impose comme langue internationale, bah une langue qui a créé une communauté très forte, des gens qui se retrouvaient un peu partout dans le monde, simplement de par le fait qu'ils communiquaient et qu'ils parlaient en espéranto. C'est une langue aussi, dont la grammaire est hyper facile. En quelques règles, tout ça tient. Et donc voilà, c'est du coup une langue qui, pendant très longtemps, a été synonyme de lien entre les peuples, d'égalité, de pacifisme. Et donc, c'est une langue qui est associée très souvent à la gauche politique. Et donc, c'est d'ailleurs dans ce contexte-là que Tabata Fabri l'étudie. C'est les liens entre l'espéranto et les mouvements de gauche. Alors, on va la retrouver dans l'interview, et bien au moment où, justement, je lui posais la question. Puisque cette langue a été créée fin du 19e, il y a des tas de choses qui existent aujourd'hui qui n'existaient pas à l'époque. Que fait-on avec les nouveaux mots? Et c'est ce qu'elle va nous expliquer tout de suite. Tabata Fabri. Alors, comment est-ce qu'on fait? Prenons des choses assez récentes. Un GSM, ça donne quoi en espéranto?
Esas poŝtelefono. Poŝtelefono, un téléphone de poche. On a telefono. Mais on peut aussi dire poŝtelefono pour un GSM, ou pour un smartphone, on pourrait dire intelligenta poŝtelefono.
Donc c'est clairement une langue créative, une langue créée, une langue malgré tout très vivante. Alors si on regarde, oui, c'était ça que je voulais demander, ça me revient. Donc l'espéranto est inventé. Donc fin du 19e, en Pologne. Comment est-ce que de la Pologne, il y a une comment est-ce que la langue voyage au départ de là? Comment est-ce que elle se répand un peu partout, puisque vous le disiez tout à l'heure en début d'interview, la raison qui a fait que on ait décidé de créer cette langue, c'était essayer de régler des conflits entre deux populations en parlant des langues différentes.
Alors la question de la création de l'espéranto est très intéressante. Donc l'espéranto a été créé au début, le premier livre, donc la création de l'espéranto, on la date à la Unua Libro, le premier livre, qui est un manuel de langue. Et d'ailleurs, j'insisterai sur une petite anecdote, c'est que l'espéranto ne s'est pas d'abord nommé espéranto, c'était la lingvo internacia, la langue internationale du docteur espéranto. Parce que Louis Lazar Zamenhof était ophtalmologue, et il s'est fait surnommer espéranto, ce qui veut dire celui qui espère, le docteur qui espère. Et on a commencé à l'appeler la lingvo internacia de la doctoro esperanto, et puis petit à petit, l'espéranto. Mais à la base, cette langue n'avait pas d'autre nom que la langue internationale. D'ailleurs, dans les premiers livres, on voit souvent, on évite de dire espéranto, on dit plutôt la langue internationale. C'est petit à petit que l'espéranto a pris la langue internationale. Mais donc pour revenir à l'Uno Libro, qui est un manuel de langue que Zamenhof a d'abord écrit en russe. Zamenhof était polyglotte et parlait énormément de langues. Il a lui-même publié très rapidement l'ouvrage dans plusieurs langues, en français, en allemand, et très rapidement des éditions, même en yiddish, en anglais. Donc très très rapidement, des manuels ont émergé dans toute une série de langues, et la langue est d'abord née par la correspondance. C'est d'abord des gens qui ont appris vraiment l'espéranto chez eux, à la maison, tout seul, et puis qui ont commencé à écrire à ce docteur Zamenhof. Et on a ainsi l'anecdote du premier espérantiste qui est venu toquer chez Zamenhof et lui parler en espéranto, et il était lui-même tout à fait étonné que quelqu'un vienne lui parler en espéranto. Mais donc cette langue a d'abord grandi comme ça, par les manuels, par la correspondance, et a commencé à s'organiser. On a commencé à avoir très rapidement des groupes d'espéranto. Le premier groupe d'espéranto, et c'était aussi assez... assez rigolo comme anecdote, donc c'est que l'espéranto n'est pas du tout la seule langue internationale auxiliaire planifiée, créée à ce moment-là. En fait, il y en a énormément qui émergeaient. L'espéranto est uniquement celle qui a eu le plus de succès parce que c'était la plus facile à apprendre. Mais on en a eu une autre juste avant qui s'appelait le Volapük, langue d'un Allemand qui s'appelait Schleyer. C'est une langue qui n'a pas très très bien marché, certains la critiquaient comme très élitiste, mais donc qui avait quand même eu un peu de succès, qui avait eu plusieurs groupes, et en fait le premier groupe d'espérantistes, c'est un groupe de volapukistes qui a changé de langue et qui est devenu un groupe d'espéranto.
Des transfuges.
Qui, oui, fin des années 1880. On a eu très rapidement des premiers journaux, notamment dans l'Empire russe, des journaux comme l'Esperantisto. Mais le mouvement commence à vraiment s'organiser avec des rencontres d'espérantistes en 1905, avec le premier congrès universel d'espéranto qui se tient à Boulogne-sur-Mer, donc à Boulogne-sur-Mer en 1905, et qui regroupe déjà 688 participants. Et donc je parlais des traductions simultanées au congrès anarchiste d'Amsterdam, c'est un des premiers congrès internationaux où tout se fait en espéranto, on n'a pas de traduction, on n'a plus besoin de traducteurs, et ça c'est une révolution pour l'époque. Et les congrès ont rapidement énormément de succès. Par exemple, le premier congrès en Belgique est le congrès d'Anvers en 1911, qui regroupe déjà 1800 participants.
Est-ce qu'à ce moment-là, parce qu'on est du coup en parallèle à peu près avec la période que vous évoquiez tout à l'heure de communauté anarchiste ici à Bruxelles où l'espéranto était utilisé, l'espéranto se politise déjà à ce moment-là, et est-ce que les espérantistes sont principalement anarchiste ou est-ce que c'est une langue qui est utilisée dans toute la sphère de gauche?
Non, pas du tout. À ce moment-là, c'est vraiment une langue qui émerge, qui se cherche en tant que mouvement. Les historiens qui ont périodisé l'espéranto en parlent comme la langue de création, la langue des premiers congrès. Maintenant, on a déjà des premiers mouvements anarchistes, donc on a l'expérience à partir de 1904. Mais on a, avec Émile Chapelier, qui déjà avant l'expérience avait publié un premier ouvrage qui s'appelait Les libertaires et la langue internationale espéranto. Mais on a également des premiers groupes, d'autres groupes espérantistes anarchistes, comme par exemple lors du deuxième congrès universel à Genève en 1906, on a un groupe qui se crée qui est l'Internacia Associo Pazzo Liberezzo, l'Association internationale Paix-Liberté, qui est un groupe qui se dit prolétaire, qui est en fait très anarchiste, mais qui se dit uniquement prolétaire et anticapitaliste. On a également des groupes ouvriers qui commencent à se former à cette époque-là. Le premier groupe ouvrier espérantiste, c'est le groupe de Stockholm en 1903. Mais également, des cours d'espéranto sont organisés auprès de l'Association internationale antimilitariste à Paris.
Ok.
compliqué.
Oui, c'est justement ce que j'allais vous demander. Est-ce que dans ces premières années du XXe, on en est toujours à l'apprentissage livresque de l'espéranto, ou est-ce que vous parlez du mouvement ouvrier, est-ce qu'il y a des cours qui sont organisés au sein du mouvement après la sonnerie de l'usine?
En effet, on a les deux formes d'apprentissage d'espéranto, par le manuel à la maison ou dans des cours organisés. L'avantage d'espéranto est que les cours sont tellement vite qu'on peut très rapidement parler. J'ai pas exactement de détails sur à partir de quel moment les cours s'organisent, mais par contre, on a plusieurs méthodes d'apprentissage d'espéranto qui croisent. Par exemple, aujourd'hui, on apprend beaucoup avec la méthode directe, qui est une méthode qui a été développée au milieu du XXe siècle, qui est une méthode où on parle espéranto dès le premier cours, dès le premier bonjour, et on fait toutes les leçons en espéranto. Mais les manuels gardent une importance véritable. J'ai beaucoup de manuels très rigolos dans le terme ouvrier. C'est dommage que je ne puisse pas montrer des images, mais on a par exemple un manuel où on voit en couverture les ouvriers grimper la tour de Babel. La tour de Babel est un mythe très présent au sein des espérantistes. Les ouvriers qui grimpent la tour de Babel pour aller vaincre, et tout au-dessus, on a un aigle qui symbolise le monstre capitalisme. Donc les ouvriers qui, grâce à l'espéranto, montent la tour de Babel pour aller vaincre le monstre capitalisme. Mais on a également un autre manuel publié dans les années 30 à Verviers. Un manuel espéranto où, avec des exercices de thèmes et de versions, où on traduit des phrases du genre le patron vient en voiture, l'ouvrier vient en vélo, le patron est un capitaliste, l'ouvrier est un prolétaire, le patron est un fasciste, le patron est une bête, il faut abattre le patron. Et donc, oui, on a vraiment, même dans les manuels espéranto, parfois quelque chose de très politique. Mm-hmm. Également.
On comprend peut-être mieux pourquoi il a été interdit à une certaine période.
Oui, l'espéranto a été interdit donc principalement dans deux pays, en Allemagne nazie. Hitler avait une aversion contre l'espéranto. Il a écrit dans son célèbre ouvrage que l'espéranto était une langue des juifs qui cherchaient à contrôler le monde grâce à leur langue secrète. Mais également en URSS, et là c'est un peu plus difficile de comprendre pourquoi, parce que l'espéranto propageait énormément le communisme, l'association espérantiste soviétique servait d'outil de propagande au communisme et à l'URSS en dehors du pays, la correspondance était très développée et permettait de faire ressortir ces idées internationalistes du mouvement, mais à mon avis, et là c'est plutôt ma théorie, c'est que cet internationalisme ne plaisait plus. En fait, à partir de l'arrivée au pouvoir de Staline, on sort de ce rêve d'exporter la révolution à l'international, et l'URSS passe de la révolution internationale à la révolution dans un seul pays, et l'internationalisme n'est plus aussi bien vu en URSS. Donc l'espéranto sort un peu de son piédestal et de son intérêt pour suivre le régime.
Alors si on regarde l'évolution du mouvement espérantiste, de la langue et l'évolution politique, tout part dans la même direction. Est-ce qu'il y a par moment des dissidences, des schismes qui se font?
Il y a énormément de schismes. Par exemple, justement, dans les années 30, donc à partir de 1921, on a une organisation qui se crée dans le mouvement espérantiste qui va être centrale, qui s'appelle SAT, la Senatiesa Associatut Manda, l'association anationale mondiale. C'est l'association qui développe l'anationalisme, mais j'en reparlerai peut-être après, c'est un concept un peu plus complexe à expliquer, mais donc c'est une association, l'association principale du mouvement ouvrier, qui va être l'association, la deuxième association du mouvement espérantiste en termes de nombre, mais qui rassemble Des personnes de tous bords, de l'anarchisme à la social-démocratie en passant par le communisme. L'exemple le plus frappant, c'est un de ses créateurs, Lanti. Alors c'est un esperantiste qui s'appelait Eugène Adam, qui se faisait surnommer Lanti tellement il était opposé à tout. Et lui, c'est un ancien anarchiste qui s'est converti au communisme en 1917, après la révolution russe. Et dans cette association SAT, on a vraiment de tous bords une union très forte entre gauchistes de tous bords, vraiment les idées anarchistes et social-démocrates, communistes, vraiment partagées tout ensemble. Maintenant, on a un schisme en 1932-1933 entre une organisation social-démocrate, l'ISE, et l'organisation prolétarienne, donc plutôt communiste-léniniste, qui vont se former, chacune partant dans une direction. Aucune des deux ne va survivre très longtemps, et finalement SAT va toujours continuer à exister, et continue toujours à exister, et représente toujours la force du mouvement espérantiste de gauche, mais on a quand même des schismes qui sont apparus à un moment.
Mais qui n'ont pas eu d'impact sur la langue.
Donc, contrairement à une autre langue qui m'avait intéressée, le yiddish, on avait vraiment plusieurs versions du yiddish et certains groupes qui avaient eu un impact sur la langue en elle-même. Non, on n'a pas vraiment de langue, de mouvements qui font évoluer la langue de manière vraiment proprement linguistique. C'est vraiment des mouvements qui font évoluer le mouvement, des associations qui font évoluer le mouvement et pas la langue en elle-même. La langue reste vraiment commune. C'est une question qu'on m'a déjà posée. La langue reste vraiment commune entre les mouvements espérantistes neutres et les mouvements espérantistes de gauche. On n'a pas, bon, à part vraiment cette question, par exemple, de la neutralité du genre, on a très peu de points d'attention linguistique qui vont diverger entre mouvements neutres et mouvements de gauche.
Alors, on a parlé des communautés anarchistes du début du siècle, de l'évolution. Et vous disiez, bah oui, il y a eu plusieurs moments où le mouvement a voulu partir dans un sens, dans un autre. Puis, j'ai un peu l'impression qu'en fait, à chaque fois qu'il y a des divergences, il y a malgré tout un retour vers l'élément central qui se fait avec l'espéranto.
En effet, mais à plusieurs moments, le mouvement a dû faire face à des grandes difficultés et le mouvement s'est donc recentré. Donc, j'ai parlé du début du XXe siècle, j'ai parlé de l'entre-deux-guerres, maintenant parlons de l'après-Seconde Guerre mondiale. L'espéranto s'est vraiment a perdu énormément de membres, a perdu en force très significativement et le mouvement s'est recentré. Donc, autant pendant l'entre-deux-guerres, le mouvement était avec une grande dispute entre le mouvement neutre et le mouvement de gauche, dès l'après-guerre, on a vraiment une reconnexion entre ces deux mouvements qui recommencent à faire des associations communes, des associations parapluies, on va dire. Donc on a toujours les associations de gauche, on a toujours les associations neutres, mais maintenant les organisations parapluies qui chapeautent ces organisations, qui sont elles-mêmes neutres, qui vont organiser une convergence entre ces associations. Une des personnes que j'avais étudiées pendant mémoire, c'est Jean Koun, un espérantiste bruxellois actif entre les années 30 et les années 70, qui lui est lui-même président d'associations autant neutres que des associations de gauche, et vraiment des associations toutes très différentes les unes des autres. Il participe à l'association neutre bruxelloise EKI, il participe à l'association des Amis de la Nature. Il est président en Belgique de l'association pacifiste pour la paix mondiale espérantiste, même qui est en fait une association communiste, et en même temps président d'association pour le commerce et l'espéranto. Donc on a vraiment des personnes qui vont commencer à aller effleurer tous les bords. Et autant avant, les membres de SAT ne pouvaient pas côtoyer des personnes du mouvement espérantiste neutre. Aujourd'hui, nombre des membres de SAT sont également membres d'associations neutres sans que cela ne leur pose le moindre problème. Donc aujourd'hui, vraiment, le mouvement s'est rassemblé. Le mouvement de gauche existe toujours. Mais la diminution du nombre de membres fait que le mouvement s'est vraiment rassemblés et aujourd'hui ils participent tous ensemble. Et des associations qui se détestaient auparavant font aujourd'hui des congrès ensemble.
Alors vous parlez de cette diminution de membres, Tabata Fabry, elle vient d'où ? Pourquoi à un moment l'espéranto perd de sa vitalité ?
Alors il y a plusieurs raisons, évidemment les interdictions. Donc de nombreuses personnes ont arrêté de parler l'espéranto. On parle aussi de nombre d'exécutions. Certains espérantistes auraient été exécutés pendant les génocides parce qu'ils étaient espérantistes. C'est un peu compliqué à évaluer. Par exemple, la famille de Zamenhof a été exécutée presque pour l'entièreté de ses membres. Mais est-ce que c'est parce qu'ils étaient espérantistes ou est-ce que c'est parce qu'ils étaient juifs ou pour certains d'entre eux, se sont même convertis à d'autres religions minoritaires. C'est un peu compliqué de savoir s'ils ont été exécutés pour leur activisme politique à gauche ou parce qu'ils étaient espérantistes. Maintenant, ce qui est vrai, c'est que de nombreuses personnes n'ont pas su apprendre l'espéranto parce que son usage était fortement limité voire interdit. Par exemple, donc cette association Equi, bruxelloise neutre, après la Seconde Guerre mondiale, quand elle a recommencé à publier des journaux, l'a fait en bilingue français-néerlandais parce que les personnes n'avaient pas eu l'occasion d'apprendre l'espéranto pendant la guerre. Donc quand en 1944-1945, il recommence à publier, c'est en bilingue français-néerlandais, tandis que pour leur usage interne, ils continuent de pratiquer l'espéranto. Et l'association, oui, face à l'anglais, perd un peu de sa vitalité, de sa force à être convaincante. Donc j'ai parlé des plus différents types d'espérantistes qu'on avait, le polyglotte comme la personne qui se refusait d'apprendre des langues. Eh bien, on a aujourd'hui plusieurs générations avec... ce qui est vrai, c'est que comme beaucoup d'activités, c'est surtout les personnes qui ont du temps qui pratiquent l'espéranto. Donc on est très marqué sur des générations de personnes qui ont fini de travailler, qui sont à la retraite comme des jeunes. Et avec vraiment des caractères très différents, avec dans les anciennes générations des personnes qui ont appris l'espéranto avant que l'anglais soit aussi présent, avant qu'on ait internet et qu'on soit tout le temps influencé par l'anglais à chaque seconde qu'on passe sur internet, alors qu'aujourd'hui on a plutôt des jeunes qui ont appris l'espéranto en Covid, sur des applications, sur Duolingo, sur les... Il y a énormément de sites pour apprendre l'espéranto gratuitement en ligne et qui l'ont vraiment appris, donc avec vraiment des caractéristiques très différentes. Mais en effet, ça perd de sa force convaincante face à l'anglais aujourd'hui qui garde une force très présente.
Alors, je vais peut-être poser la question qui n'est pas à poser, mais... Pourquoi apprendre l'espéranto aujourd'hui ?
Il y a plusieurs raisons pour apprendre l'espéranto. Il y a voyager, se faire des amis, participer à des congrès. Il y a énormément de gens qui ont vraiment un attrait pour les langues et qui ont envie de s'amuser à apprendre une nouvelle langue. Il y a très très peu de gens, mais il y en a certains pour qui c'est toujours une langue maternelle, mais c'est jamais la seule langue maternelle, c'est une langue parmi d'autres. Parce que évidemment, quand on se fait des amis espérantistes, on rencontre parfois l'amour. Dans le monde espérantiste, on a ainsi des familles internationales qui se créent avec papa qui parle une langue, maman qui parle une autre langue, et à la famille, on parle tous ensemble en espéranto. Donc on a plein de raisons différentes d'apprendre l'espéranto, mais c'est généralement une curiosité, une envie d'aller vers les autres et de découvrir quelque chose de différent que son train-train quotidien dans sa ville natale.
Et vous, alors, qu'est-ce qui vous a donné envie de poursuivre ? Parce que vous avez déjà passé plus d'un an à travailler là-dessus pour votre mémoire. Et puis, quand il s'est agi de trouver un sujet de thèse, en fait, oui, l'espéranto, on va continuer.
Eh bien, moi, en fait, le mémoire... Donc comme j'ai dit, j'avais un peu choisi par hasard, et j'ai même envie de dire un peu choisi par dépit, parce qu'à la base je voulais travailler sur le yiddish, et le yiddish était une langue beaucoup plus difficile à apprendre, et donc j'ai changé de sujet assez rapidement. Mais je m'étais limitée pour mon mémoire uniquement à la Belgique, ce qui était très frustrant, En fait, le mouvement espérantiste est très difficile à analyser à l'échelle d'un seul pays, parce que c'est un mouvement qui est par essence international, donc c'est très dommage au final de ne l'analyser qu'à l'échelle d'un pays. Et donc j'ai eu envie de continuer mes questionnements, de continuer mes recherches, mais en ne me donnant plus de limites géographiques et de vraiment me donner plusieurs années pour aller voir les archives à travers le monde et vraiment pouvoir comprendre le mouvement espérantiste dans toute sa complexité géographique et de comprendre justement comment c'est un mouvement transnational qui permet d'avoir des contacts entre militants de gauche de tout un tas de pays différents.
Alors, votre mémoire, vous l'avez fait ici à l'ULB, mais la thèse, vous la faites à Paris, pour des raisons principalement de financement. En tout cas, c'est ce dont on avait discuté avant l'interview. Mais alors, vous me disiez, ça, je trouve ça assez extraordinaire. Moi, je vous dis, naïvement, donc vous retrouvez à voyager entre Bruxelles et Paris. On m'a dit, mais non, en fait, moi, mon bureau, il est partout dans le monde.
Oui, tout à fait. Donc maintenant, j'étudie à l'École des hautes études en sciences sociales à Paris, où il y a toute une série de chercheurs qui s'intéressent à l'espéranto, donc c'est un très bon cadre pour étudier ce sujet. Mais en fait, la matière de l'historien, donc l'histoire, c'est pas un métier de bureau où on a besoin, c'est pas une thèse en biologie ou en chimie où on a besoin de venir au labo et faire des expériences tous les jours. Les expériences en histoire, c'est lire les archives et les comprendre. Et pour lire les archives, il faut se déplacer. Donc moi, dans mon cas, j'ai des archives un peu partout dans le monde. Une grande partie sont à Vienne, donc j'espère faire bientôt un séjour de recherche à Vienne, à Varsovie. Je réfléchis à m'élargir vers la Chine et le Japon. J'étais il y a 2 semaines de cela en Turquie pour aller consulter quelques archives auprès des archives ottomanes à Istanbul. On a vraiment une série de documents sur l'espéranto éparpillés à travers le monde. C'est un peu une des difficultés, c'est un des défis de la recherche, c'est qu'elles sont non seulement éparpillées à travers des centres d'archives, mais elles sont très peu souvent inventoriées et organisées. Souvent, les espérantistes eux-mêmes ont eu du mal à donner les archives dans des centres d'archives. Les centres d'archives ont eu du mal à les organiser. On a très peu souvent un archiviste qui sait lire l'espéranto, les inventorier correctement. Mais donc, on a vraiment, et donc c'est un jeu. Et c'est là tout l'intérêt d'avoir appris l'espéranto et d'être rentré dans le mouvement pour essayer de rentrer en contact avec toutes ces espérantistes. Ici, je vais me faire interviewer, mais j'ai réalisé plusieurs interviews et je continue d'interviewer des espérantistes. Mais également aller voir s'ils n'ont pas des documents chez eux. Et on a parfois comme ça des pépites qui se retrouvent dans le grenier de quelqu'un de manière tout à fait non organisée, non cadrée. Mais c'est ça la beauté de la recherche aussi.
Alors, votre objectif, parce que là, cette thèse, elle vient de démarrer, hein, vous avez commencé en janvier. L'idée, dans 3 ans, 4 ans, c'est d'arriver avec quoi ?
L'idée, c'est d'arriver avec une histoire générale, systématique, du mouvement espérantiste ouvrier dans la première moitié du XXe siècle, donc entre ces premiers mouvements espérantistes ouvriers, donc par exemple le premier en 1903 à Stockholm, jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, jusqu'à l'interdiction, aller vraiment avec une histoire assez longue de ces mouvements, pouvoir comprendre les mouvements dans leur longueur, mais pouvoir également comprendre les mouvements et leurs différences de géographie. On a des mouvements vraiment partout dans le monde qui se développent à des rythmes parfois différents et qui s'influencent les uns les autres, et comprendre vraiment en quoi le mouvement espérantiste se développe à travers le monde. Mais aussi rester vraiment centré, donc je ne cherche pas uniquement à faire l'histoire de l'espéranto, mais également à mieux comprendre comment l'espéranto est un exemple de communauté transnationale, d'usage transnational et d'apport des mouvements de gauche, de comment ces idéologies telles que l'internationalisme et le pacifisme se développent. J'aimerais me questionner sur tout ce qui découle de la nation. Donc j'ai un peu parlé d'anationalisme tout à l'heure. Donc on a l'internationalisme, on a l'antinationalisme, On a un peu de nationalisme aussi, mais on a aussi cet anationalisme qui est un concept de rejet de la nation qui est particulièrement intéressant pour moi, qui est propre au mouvement espérantiste, qui, je trouve ça même très dommage de le traduire, mais un concept vraiment propre au mouvement espérantiste qui cherche à aller plutôt vers une citoyenneté mondiale et comprendre vraiment comment l'espéranto peut être un exemple de communauté internationaliste de gauche et comment une communauté minoritaire peut développer son nationalisme et comment peut-elle développer, donc pas son nationalisme mais son rejet du nationalisme, comment elle se crée en tant que communauté et comment les idéologies politiques se développent à travers une communauté minoritaire.
Alors là, vous allez travailler sur la première partie du 20e. Est-ce que dans le mouvement espérantiste aujourd'hui, ce sont des idées qui sont toujours très, très présentes. Ça reste un élément important pour la gauche.
Ça reste des idées très présentes. Maintenant, c'est moins organisé qu'avant. Là où avant, on avait vraiment des organisations qui se revendiquaient de gauche, on en a toujours aujourd'hui, mais qui perdent un peu en vitalité et en nombre de membres. Maintenant, les idéologies sont toujours très présentes. Quand on creuse un peu dans les discussions, on voit que les valeurs sont toujours partagées par les espérantistes. Maintenant, donc oui, j'aimerais bien continuer à faire cette recherche. C'est un questionnement de ma position. Est-ce que je suis historienne? Est-ce que je cherche à faire de la sociologie, de la science politique? Pour l'instant, je me limite à l'histoire et donc je me limite à la première moitié du XXe siècle. Mais on pourrait tout à fait prendre les mêmes questions d'analyse et les appliquer au mouvement espérantiste contemporain aujourd'hui, oui.
Alors, vous disiez tout à l'heure, Tabata Fabry, en début d'interview, l'espéranto, vous l'avez appris. Et toutes les semaines, vous continuez encore à rejoindre le groupe avec lequel vous avez appris la langue. Les espérantistes que vous avez croisés dans ce contexte-là, ce sont plutôt des amateurs linguistiques ou bien des gens qui sont dans la continuité de ce mouvement international égalitaire de gauche.
Alors il y a plein de gens différents, et d'ailleurs, puisqu'on est à l'ULB, j'aimerais parler de l'association qu'on essaie de fonder, un cercle étudiant qu'on essaie de fonder qui s'appelle Clubo, le Clubo de la Liberae Universitatoi de Bruxelles, donc le club des universités libres de Bruxelles. C'est un club qui essaie de rejoindre les étudiants de l'ULB et de la VUB, puisque l'espéranto étant une langue commune, accessible à tous les Bruxellois, qu'ils soient néerlandophones ou francophones, ça permet d'entrer dans ce champ-là. Mais oui, on a des deux, on a des amateurs linguistiques, comme on a des militants pour l'égalité. Et même souvent, ce sont les mêmes personnes qui sont des deux. On a plusieurs personnes issues de contextes culturels différents et qui ainsi retrouvent dans l'espéranto un moyen d'échanger avec d'autres personnes de tout milieu.
Alors vous aviez dit, l'espéranto, il y a moyen de l'apprendre en suivant des cours, il y a des applis, il y a plein de choses. Malgré tout, Le conseil que vous donneriez à quelqu'un qui, après avoir entendu tout ça, se dirait « en fait, l'espéranto, je vais tester. » Duolingo ou suivre un cours avec des personnes?
Il y a le confort de la maison, il y a le confort de Duolingo, il y a plein d'autres sites internet, il y a par exemple iCurso ou Lerno.net qui sont créés par des espérantistes avec des méthodes qui expliquent vraiment la grammaire. Duolingo, c'est très chouette, c'est très amusant. Mais on a vraiment des cours qui sont beaucoup plus efficaces pour apprendre rapidement. Mais l'intérêt de l'espéranto, c'est enfin de rencontrer des gens, d'aller voir des associations et d'aller sur place et de se rendre compte que c'est magique et qu'on peut, au bout de quelques semaines, se mettre à parler avec d'autres espérantistes et avoir cette langue commune avec eux. Maintenant, bien sûr, si on veut l'apprendre à la maison, ça permet aussi de se sentir plus confortable. Et puis Internet n'est pas que pour être seul chez soi à la maison, c'est aussi un moyen d'échanger avec des personnes du monde entier, des personnes qui habitent sur d'autres continents, des personnes qui ont parfois, c'est aussi la problématique quand on est un mouvement aussi international, des personnes qui ont parfois des problèmes à payer à payer un billet d'avion ou à obtenir un visa. Le Internet permet de rassembler ainsi des espérantistes. On a plusieurs congrès internationaux. On est vraiment des personnes qui viennent de tout pays, de tout continent, qui se réunissent grâce à l'espéranto. Et Internet fait partie de ce mouvement aussi général vers une internationalisation des échanges. Et donc, si vous êtes à Bruxelles et que vous souhaitez rejoindre des cours d'espéranto à Bruxelles, on a l'Esperantista Bruxella Grupo, Esperantista Bruxella Grupo, ou EBG et BOGO en espéranto, qui donnent des cours chaque année. Les cours viennent de commencer cette semaine pour ce second semestre, mais ils sont organisés deux fois par an. Donc, soit à commencer en septembre, soit à commencer fin janvier, début février, et on peut venir rejoindre. Pour l'instant, ils sont donnés à Piano Fabrique le mardi soir. Et donc, si vous voulez vous renseigner sur les cours, vous pouvez aller sur le site internet Esperanto Bruxelles avec un 1S, esperantobruxelles.org.
Un grand merci.
Merci à vous.
Comment dire au revoir en espéranto?
Dankon kaj ĝis la revido.
Voilà, c'est ici que se referme cette histoire de savoir. Merci à vous de l'avoir suivi. Merci à Tabata Fabri de m'avoir accordé cette interview. Il me reste à vous souhaiter à toutes et à tous une excellente fin de semaine. On se retrouve jeudi ou vendredi prochain pour un autre histoire de savoir. D'ici là, portez-vous toutes et tous très bien. Au revoir. Da 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 da